il est 8h.
J'ai travaillé, j'ai beaucoup révisé pour le bac philosophie, donc je suis quand même content de faire cette épreuve-là maintenant.
C'est parti pour le bac 2021. 525 000 candidats des filières générales et technologiques découvrent les sujets de l'épreuve de philo à l'instant même. Nous allons dans un lycée parisien en direct dans quelques secondes. Après un réformiste, le prochain président iranien devrait être un conservateur. Ebrahim Raisi, qu'on imagine même succéder un jour au guide suprême. Paradoxalement, il pourrait favoriser un nouvel accord sur le nucléaire. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran va nous expliquer pourquoi. Et puis, la mode est décidément au train de nuit, revenue en grâce avec le plan de relance. Une start-up veut créer des hôtels sur rail, autrement dit, la version luxueuse du Paris-Rome ou du Bruxelles-Barcelone. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bas les masques en extérieur, fini le couvre-feu des dimanches. Qu'en pense Valérie Pécresse, la présidente candidate en Ile-de-France pour les régionales? Y voit-elle une décision sanitaire ou bien politique? Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour, vous avez 4 heures, bon courage. Cette phrase vient de retentir simultanément dans des milliers de salles d'examen où l'on passe le bac ce matin. Alors ça vous paraît habituel, c'est le rite de passage par excellence vers l'âge adulte. Pourtant, l'excellence, l'année dernière, le grand diplôme républicain s'était résumé à du contrôle continu. Cette fois-ci, retour des copies, des examinateurs et du stress peut-être.
C'est ce qu'on va voir avec vous, Virginie Riva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 en direct du lycée Fénelon à Paris, avec des lycéens soulagés tout de même que le bac arrive enfin.
Oui, et des étudiants plutôt détendus, hein, même s'ils sont arrivés tôt ce matin. Clarisse était parmi les premières. Elle était là un peu avant 7h et pourtant, comme la majorité des élèves ici, elle a déjà son bac. Une très bonne note en philo au contrôle continu. Et d'ailleurs, seule la meilleure note de ces deux notes entre celle obtenue ce matin et celle obtenue durant l'année sera finalement retenue. Mais elle a quand même envie de jouer le jeu.
Non, je ne suis pas spécialement stressée, mais j'ai juste envie de faire le mieux que je peux pendant cette épreuve. Et j'ai eu 14,5 en contrôle continu, donc c'est pas mal. Et si je peux avoir un peu plus là pendant l'épreuve, ça serait bien. Pour la mention, pour la note globale, pour ma fierté, pour moi.
Voilà, autre aménagement ce matin, les élèves auront 4 sujets au lieu de 3. Il ne faut pas partir avant 9h, durée légale, sinon ça sera 0 et c'est 7 notes qui sera retenue. Devant le lycée Fénelon, personne n'a envie de partir avant ou de rendre copie blanche. Ils sont plutôt, comme Alexis, contents d'avoir enfin une vraie épreuve.
En vrai, je me dis qu'il fallait quand même qu'on fasse un peu comme les anciens, fasse un peu un vrai bac, on ferait une vraie épreuve. Du coup, je suis quand même content d'avoir fait un minimum, d'avoir travaillé un minimum. Au moins, ça montre que je ne me suis pas trop opposé sur le contrôle continu. Et à la fin, je n'ai pas travaillé, mais je suis vraiment venu. J'ai travaillé, j'ai beaucoup révisé pour le bac philosophie. Donc, je suis quand même content de faire cette épreuve-là maintenant.
Voilà, à cette heure précise, normalement, ça y est, tous les élèves ont commencé à découvrir les sujets. Nous pourrons vous les communiquer, mais un peu plus tard, on les connaîtra d'ici plus d'une heure.
Virginie Riva, la spécialiste éducation d'Europe 1, on a hâte que vous nous donniez les intitulés des sujets. Tiens, je vous en propose un. Se démasquer, est-ce retrouver la liberté?
Oh, c'est joli ça.
Pas besoin de disserter. Hein. Nous avons le droit dès aujourd'hui de ne plus porter de masque en extérieur, sauf en cas de regroupement ou dans les lieux bondés, les stades. Le couvre-feu, lui, va tomber dès dimanche soir, 10 jours plus tôt que prévu. Donc.
Lui sera sans doute sans masque. Emmanuel Macron, dans la Somme et dans l'Aisne aujourd'hui.
Visite de la maison natale de Jean de La Fontaine à Château-Thierry à quelques semaines des 400 ans de sa naissance, mais aussi et surtout à 3 jours des élections régionales. Ce déplacement du président sur les terres de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France n'est pas un hasard, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, depuis plusieurs semaines, le chef de l'État s'investit sur le terrain en allant à la rencontre des Français. Quoi qu'en dise l'Élysée, il fait clairement de la politique. Il ne faut pas le sous-estimer, il fait ce qu'il faut, explique une ministre. En ligne de mire, notamment, la lutte contre le RN. À l'Élysée, on l'a théorisé depuis longtemps, c'est dans les territoires qui semblent les plus abandonnés par l'État que le vote d'extrême droite prospère. C'est le cas notamment à Villers-Cotterêts, où Emmanuel Macron finira sa journée. Ville RN depuis 2014, son château, longtemps en ruine, deviendra l'an prochain la cité internationale de la langue française. Emmanuel Macron veut en faire un symbole. Une présence sur le terrain qui aura tout de même peu de chance de modifier les équilibres en vue de dimanche. La liste LREM est autour de 10% d'intention de vote dans les Hauts-de-France. Si un seul déplacement du président pouvait changer la donne, ça saurait, sourit un conseiller. Selon nos informations, hier, dans le huis clos du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a invité son gouvernement à, je cite, « ne pas tirer des leçons nationales des résultats de dimanche prochain ». comme s'il préparait lui-même les esprits à une certaine déroute électorale.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Les candidats et leur soutien qui se démultiplient aujourd'hui. Marine Le Pen en PACA aux côtés de Thierry Mariani, Christian Jacob dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand, Olivier Faure dans le Grand Est. Jean Castex, lui, va passer par 3 régions en un seul jour. Peut-on être conservateur et amener le changement? Vous allez voir que
c'est
cette question...
sur l'épreuve de philo.
Oui, elle n'est pas philosophique, elle est politique, cette question en Iran avec l'élection présidentielle demain. La victoire est promise à l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi. On le présente déjà comme le fils spirituel du guide suprême Ali Khamenei, qui est en poste depuis 32 ans.
Et sans attendre, nous retrouvons notre envoyé spécial à Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Un tenant de la ligne dure du régime, on imagine que cela compliquerait encore les relations avec l'Occident ?
Au contraire, ça pourrait même être favorable. Si Ibrahim Raisi gagne demain, le pays se retrouvera avec un président sur la même ligne que le guide suprême, avec le soutien des gardiens de la révolution et avec un parlement qui lui est acquis. Il y aurait donc plus de cohérence dans les positions iraniennes. Ce sera plus stable. C'est le message que font passer les conservateurs par l'intermédiaire de cet influent professeur de relations internationales, Fouad Izadi. Il ne ferme aucune porte dans les relations avec les Occidentaux.
Iran likes to have good relations with Europe.
L'Iran apprécie avoir des bonnes relations avec l'Europe. Le problème, c'est que pour l'instant, les Européens ne viennent pas vers nous. Ensuite, quel que soit le président élu, il négociera avec les États-Unis s'il pense qu'ils sont de bonne foi.
Cet expert en est persuadé, les discussions en cours à Vienne sur l'accord nucléaire ne s'arrêteront pas avec l'arrivée d'un président conservateur à Téhéran.
Alors justement, Jean-Sébastien, cet accord nucléaire, on le disait presque enterré, est-ce qu'il pourrait être réactivé ?
Eh bien, si Ibrahim Raisi veut séduire une population largement lassée par la politique, il doit obtenir la levée des sanctions. C'est ce qu'attend avec impatience ce jeune professeur d'anglais.
Bien sûr que M. Raisi doit réactiver cet accord. Il sait que c'est important parce qu'il s'agit d'économie et donc de manger pour le peuple iranien. Nous ne pouvons plus nous payer de viande, ni de poulet, ni d'œufs. Alors peut-être qu'au début, les conservateurs vont montrer les muscles. Mais ils vont vite comprendre que sans cet accord, ils ne pourront pas gouverner ce pays et ils vont revenir aux discussions.
Et c'est aussi ce que pensent les adversaires politiques d'Ebrahim Raisi. L'ancien élu réformateur Mustafa Tarjizadeh en est persuadé. La levée des sanctions qui perturbent la vie quotidienne, c'est l'objectif numéro un des durs du régime.
Ils n'ont pas d'autre choix que de négocier avec les Américains. L'accord nucléaire finira par être appliqué et les problèmes économiques liés aux sanctions seront réglés. L'Iran pourra même vendre à nouveau son pétrole.
Vendre du pétrole, c'est faire rentrer de l'argent et gagner en popularité. Il y aura probablement un tour de vis sur les libertés publiques, mais il pourrait au moins se prévaloir d'être ceux qui ont relancé le pays là où les modérés ont échoué. Ça placerait le camp Raisi dans une position confortable à un moment clé, un moment où la succession de l'ayatollah Khamenei, 81 ans, se prépare. Et pour assurer la survie du régime des mollahs, les conservateurs doivent avoir les coudées franches.
Dossier signé depuis Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini, l'envoyé spécial d'Europe 1. Et avec vous, Jean-Sébastien, nous suivrons cette élection présidentielle qui a donc lieu demain en Iran.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Embarquement à bord du train de nuit le plus confortable que vous puissiez imaginer.
Et puis un autre train, le 006, c'est le titre d'un livre dans lequel des auteurs célèbres sont pastichés.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Si vous avez de bons souvenirs de voyage en train de nuit, la qualité de la literie et la discrétion de vos voisins de compartiment n'en font pas forcément partie pour relancer ces liaisons nocturnes. La SNCF a promis quelques efforts, mais ce sera difficile de battre ce concept dévoilé par Midnight Trains, une start-up soutenue par quelques investisseurs très solides.
Mais elle vient de dévoiler un projet d'hôtel sur rail, Aurélien Fleureau.
Oui, dans 2 ans et demi, la première destination, ce sera l'Espagne ou l'Italie, donc un Paris-Barcelone ou un Paris-Rome en voyageant dans une cabine privative, seul, à 2, à 4. Pas d'inconnu ronfleur à vos côtés et un service de restauration de qualité. Un positionnement inédit voulu par Adrien Aumont, cofondateur de la plateforme de financement participatif KissKissBankBank.
Notre but n'est pas de faire un produit de luxe. Notre but, c'est de réinventer le standard du train de nuit. Considérer qu'en dessous de ça, ça ne peut pas être compétitif face à l'aviation. Ce principe d'hôtel sur rail, c'est pour recréer du confort. Le train est le moyen de transport le plus durable. Donc on essaie de réinventer cette expérience avec des chambres privatives, des bonnes literies, un beau restaurant. Il faut mettre le paquet si on a envie que les gens quittent l'avion pour monter dans le train.
Avec des tarifs qui devront donc concurrencer les compagnies aériennes qui font du moyen courrier en prenant en compte leurs frais cachés comme pour les bagages, Midnight Trains se présente comme la première start-up ferroviaire française soutenue par des entrepreneurs comme Xavier Niel, le patron de Free. Un deuxième tour de table est attendu à l'automne quand il faudra investir dans le matériel roulant des trains neufs qui risquent de donner un sacré coup de vieux aux actuels intercités de la SNCF.
Aurélien Fleurot, spécialiste des transports d'Europe 1. Le luxe peut-il nous faire oublier le temps? Voilà une question possible du bac philo, tout comme celle-ci d'ailleurs. Écrire à la manière d'un auteur connu, est-ce lui dérober son art?
En tout cas, l'écrivain Pascal Fioretto a poussé très loin le concept du pastiche dans son livre L'anomalie du train 006 qui sort aujourd'hui. Nicolas Caro a lu ce concentré d'imitations de style.
Toute ressemblance avec des écrivains connus n'est pas du tout fortuite. On doit déjà à Pascal Fioretto « Et si c'était niais » ou « L'élégance du cornichon », à chaque fois, même exercice, créer un roman inédit en imitant le style de certains écrivains. Dans son nouveau livre, il nous emmène dans un train reliant Paris à Brive-la-Gaillarde. Il n'y a là que des auteurs et à chaque chapitre, on change de voix. C'est d'abord un certain Joël qui raconte en essayant de créer un maximum de suspense. On aura reconnu Joël Dicker. Puis c'est Virginie dans un style très rock. Virginie Despentes, bien sûr, puis Emmanuel, c'est-à-dire Emmanuel Carrère, Aurélie Valogne ou Sylvain, qui grimpe partout et écrit des choses comme « On n'allait jamais chercher trop haut l'envie de ne pas être en bas ». Et on identifie tout de suite le style de Sylvain Tesson. Jamais de moquerie, c'est un jeu. D'ailleurs, à part deux ou trois ronchons, la plupart des écrivains sont ravis d'être pastichés. Pascal Fioretto.
De manière très sympathique, Amélie Nothomb m'avait dit avec beaucoup d'ironie « C'est formidable, mais vous n'avez lu que mes 10 premiers livres ». Ou dernièrement, la Sylvain Tesson qui m'a dit « Je me suis beaucoup marré, mais en vrai, je suis bien pire que ça ».
Et celui qui pousse encore plus loin l'autodérision, c'est Hervé Le Tellier, le prix Goncourt, qui signe la préface de ce livre très drôle.
Nicolas Caro, ça s'appelle donc « L'anomalie du train 006 ». Il y a déjà au moins trois références dans ce titre de livre.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13. Europe 1.